Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Adrien Aiguin, Pierre Dorian.
Salut à tous, c'est parti pour les best-of de Noël sur RMC de 15h à 18h pendant vos vacances, tous les jours, pour revivre les meilleurs moments de la saison avec Adrien.
Salut Pierrot, je ne te souhaite pas encore un joyeux Noël, mais j'ai une question à te poser. Qu'est-ce qu'on mange chez les Dorian ce soir pour le réveillon ?
Il y aura un petit risotto au cèpe pour accompagner une pièce de biche.
Une pièce
car,
de biche.
Oui, car nous fêtons Noël à Orléans et en Sologne, on chasse.
Ah ouais, voilà. Ah, c'est comme ça. Bon, bon courage à tous ceux qui sont en train de préparer, celles et ceux, le réveillon. C'est parfois des moments de tension dans les familles, dans la
ça
cuisine.
Peut arriver.
Donc mettez le Super Moscato Show, ce sont les meilleurs moments. Vous allez passer une bonne préparation de réveillon, c'est sûr. Avec Pierrot, qui est en pleine forme
en plus,
le 4 décembre.
En plus, on a des très très beaux débats.
Oui,
nous allons parler des coachs qui se font virer en début de saison. C'est un débat transversal, comme on les aime. Azema, Perpignan, Tudor, la Juve, Habib Bey qui finalement a sauvé son poste à Rennes.
Tout à fait.
Virer un coach, est-ce la solution à 16h sur RMC. Et puis à 17h, Gaël Monfils qui arrêtera à l'issue de la prochaine saison. Gaël Monfils, est-il celui qui laisse le plus de regrets parmi les fameux mousquetaires ?
Mousquetons, comme les appelle Vincent Moscato, très méchamment.
Il y a des très beaux invités avec Dorian Louvet notamment, et ses 7 marathons en moins de 2h30.
Et vos chroniques préférées, le journal moyen première édition à 15h45, on va parler physique quantique. Oui, oui, parce qu'on parle physique quantique dans le Moscato Show. Et puis la deuxième édition du journal moyen à 16h45. Moment culte de ce début de saison, Pierrot. Vincent va nous parler de Vitesse.
Ah oui.
Extraordinaire. Ah. Soyez bien là à 16h45.
Là, ne ratez pas.
Le fou rire de l'année. Et puis un Kikadi très, très, très serré. Je vous promets vraiment un gros match à 17h45.
Alors sur la Vitesse, il y a deux choses.
Ouais.
D'abord, le moment est drôle.
Oui.
Donc si vous l'avez raté, écoutez. Et en plus, lors de la première édition du journal moyen où tu l'as repassé, on était tous à pleurer de rire.
Oui, il était un peu vexé d'ailleurs.
Donc c'est double raison de bien écouter le journal moyen.
Il était vexé, Vincent.
On démarre avec un débat sur l'histoire du rugby français. Quelle est la défaite la plus traumatisante face aux Springboks ? Celle de 2023 en quart de finale ou celle de 1995 en demi-finale ?
Entre moments de légende, joueurs mythiques, origine et héritage.
Surtout pas expliquer les choses, pas expliquer le rugby.
L'Afrique du Sud a fait de la domination physique son principe.
Tu parles de ces énergétivores, ces gens qui vous épuisent votre énergie.
Les impacts et le combat sont indissociables de ce sport.
Le rugby, ça part du cœur, quoi. C'est une volonté de devenir un homme.
La violence du rugby en fait une discipline collective à part.
C'est pour qui me plaît, pour m'exprimer, quoi.
Les Springboks ont vu passer quelques-uns des plus puissants athlètes
du monde.
Et quand on sait que cette équipe joue pour l'union de son peuple, on peut s'attendre à tout.
Le rugby, c'est un espèce de sport, c'est un spectacle.
Même à l'impossible.
L'expérience, ça sert un petit peu, quoi.
RMC, le Super Moscato Show.
France, Afrique du Sud, la revanche.
C'est peut-être d'un tout petit peu d'expérience dont on a manqué en 2023. Donc
peut-être.
C'était quand même.
C'est pas la revanche, pas Pierrot quand même.
Une vérité.
On peut pas. Oh oui, c'est un match.
Un match où tu peux être revanchard.
La revanche, ça sera en 2027. Il doit y avoir une revanche.
Ouais, alors en tout cas, on entame une semaine spéciale France Afrique du Sud. Deux fois, les Springboks nous ont privés de notre rêve mondial, Vincent. Il y a eu ce quart de finale 2023. Dont on se souvient très bien. Et puis une demi-finale en 95. Pour les plus jeunes, on va vous rafraîchir la mémoire, mais évidemment, ça fait partie des grands matchs de l'histoire du 15 de France, et même de l'histoire de la Coupe du Monde. À chaque fois, des bizarreries arbitrales et des regrets immenses. Quelle est la défaite la plus traumatisante, 95 ou 2023, 32-16? Nicolas Paolorsi est là pour nous raconter cette demi-finale de 95. Salut Nico.
Salut
Nico.
Salut le Moscato Show.
Salut, salut à tous. Pour rappeler le contexte et le scénario de ce match, France-Afrique du Sud 95.
Scénario de dingue, Pierrot. Ce jour-là, à Durban, déjà, il pleut des trombes d'eau. C'est un déluge. Et ça pousse l'arbitre, Vincent, à repousser trois fois le coup d'envoi de la rencontre. Donc imaginez déjà la dramaturgie du match avant que ça commence. Ensuite, quatre essais sont refusés aux Bleus. Deux à Fabien Galthié, un à Emilien Tamac et surtout celui de la 78e minute à Abdelatif Benazi. L'arbitre gallois Derek Bevan assure que Benazi n'a pas marqué alors que Benazi dit l'inverse. L'arbitre donne ensuite une mêlée. Les Bleus enfoncent les box sur les trois mêlées qu'ils vont disputer. On s'attend tous à un essai de pénalité. Rien. Sur la quatrième mêlée, la France perd le ballon. Défaite 19-15 pour continuer sur les injustices. Le seul essai qui est inscrit dans ce match par les Bucks aurait dû être refusé. Kruger n'avait pas aplati le ballon, il l'a avoué lui-même des années après. Le sentiment qui règne ensuite, c'est que tout a été fait pour que l'Afrique du Sud gagne sa Coupe du Monde. Un sentiment, Vincent, qui est renforcé par la montre en or que l'arbitre Derek Bevan a reçue comme cadeau de la Fédération Sud-Africaine lors d'un dîner officiel.
Beau,
et en finale, les Bucks battent les Blacks, c'est... diminués par une intoxication alimentaire. Ouais. Voilà, mais ça fait partie des défaites qui ont marqué la Coupe du Monde et ça reste un immense traumatisme ce match.
Et en rappelant bien sûr que c'est aussi un moment d'histoire tout court pour l'Afrique du Sud et pour le monde entier, puisque c'était juste après la fin de l'apartheid. Premier moment d'union de la nation française.
Oui, puis Mandela qui avait été libéré.
On change le débat parce qu'en écoutant Nico, je me suis dit le bon débat, c'est en fait si Bernard avait été Bernard Laporte président en 95, est-ce qu'on aurait été champion du monde?
Non, là non.
En fait, c'est ça le bon débat, non?
Je pense, président de la République.
Je pense que l'équipe de Sudaf, c'était un traumatisme parce que bon, tu pouvais les battre, mais pour moi, c'est vieux maintenant. Le problème, c'est que le sport, ça vieillit pas terrible. Ouais, c'est éphémère, ça vieillit pas terrible. C'est vrai que c'est un vieux souvenir qui est dur parce que on sait le contexte, on sait que les Springboks étaient avantagés, ça sentait quand même la carotte, et la carotte, on a pris les Blacks derrière, on a pris la carotte. Mais non, mais surtout, c'est pas dit qu'on aurait été champion du monde. Mais surtout, le plus dur, c'était 2023. 2023, c'est affreux.
Pourtant, c'est plus un traumatisme 2023.
Ah ouais, parce que t'es à la maison, t'as l'équipe, t'as une équipe incroyable pour être champion du monde. On n'est pas Chouinard, on blesse Dupont, Intermac ne fait pas la Coupe du Monde. Tu vois, on a tout contre nous. Il y a ce truc de Edge the Best. Moi, je veux bien que tu m'expliques qu'il n'y a pas un avant, mais pas non, un avant, mais... qu'il n'y a pas pénalité. Tu pourras me l'expliquer toute ma vie. Pour moi, il y a une tricherie là qui est terrible. On doit marquer un essai, lui doit prendre un carton jaune. À la sortie, il n'y a rien de sifflé.
Il prendra un jaune après, plus tard.
Il prendra un jaune plus tard. Mais non, c'est tout va mal. Tu vois, à la fin, il y a une faute grossière des Sud-Africains qui n'est pas sifflée. Autrement, il y a pénalité. Tu peux encore gagner le match.
Et c'est eux qui gagnent la pénalité.
Et c'est eux qui prennent la pénalité.
La main au sol.
Bon, voilà. Donc, ça paraît grosse carotte. Moi, je pense qu'en 2023, grosse carotte. Et puis, c'est plus proche de nous. Donc, c'est plus proche. Donc, automatiquement, on est encore un peu. Ah, tu vois, c'est un mauvais goût, ce match contre l'Afrique du Sud. Et le problème, c'est que les tests là ne seront pas du tout une revanche.
Non,
parce que
une revanche.
Si tu le perds, c'est mal. Mais si tu peux leur mettre un de près, bon, ils te diront oui, mais le champion du monde, c'est nous. Donc, là, c'est des matchs. Voilà, c'est des tests. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça vient de gagner.
Si tu perds à domicile, tu reprends un coup sur la tête.
Non, gagner. Mais même si tu gagnes, c'est ce que je te dis.
Si
tu
gagnes,
ça n'effacera rien.
Denis Charvet.
Non, moi, il n'y a pas photo. D'abord, j'étais dans le stade avec Wilfried. Et qu'après
le Templier, ouais, 2023,
et on a ressenti quelque chose de terrible, c'est-à-dire que la Coupe du Monde s'arrêtait au moment où il a sifflé la fin du match, c'est-à-dire qu'il y a même les tribunes, tout, les gens sont partis avant tout de suite du stade, le stade s'est fini en 2 secondes. Je crois que les gens ont vécu un vrai cauchemar. Et puis moi, je pense que comme Vincent, je pense qu'on a tout était écrit, quoi. C'est-à-dire que nous, les Anglais, tu les battais, et les Blacks, tu les gagnais à nouveau. Ouais. Ils avaient battu en match de poule. Tu les gagnais en finale. C'était pour toi, c'était la Coupe du Monde. Comme en 2007, on pensait que c'était notre Coupe du Monde. Souviens-toi, en France.
C'est un peu le même traumatisme, d'ailleurs.
Ouais, un peu le même traumatisme, mais là, c'est pire.
Sauf qu'en 2007, les Argentins étaient meilleurs que nous.
Oui, ils ont fait un meilleur match que nous, mais après, tu bats les Blacks.
Deux fois, ils nous battent, et deux fois, il n'y a rien à dire.
Oui, mais attention, tu perds les Anglais que tu dois jamais perdre au Stade de France en demi-finale. Et derrière, t'as l'Afrique du Sud.
Les Anglais qui étaient pas bons. Qui étaient pas bons, l'Afrique du Sud, qui était moyenne. C'est là, elle est dure aussi. 2007, elle est dure. Mais bon.
2007, elle est moins dure. 2007, tu fais un exploit, et tu vas jamais aller battre les Blacks.
Oui, mais c'est ça la différence. Après, tu fais
pas champion du monde.
Oui, mais sauf que les Anglais te battent
à la régulière.
À la régulière. Ouais. Donc, régulière. C'est pas non, mais là, pour moi, c'est une. Oui, en 95, je m'en souviens très bien. Je me souviens où j'étais. On se souvient tous où on était quand t'aimes le rugby, mais. Ouais, tu t'es fait voler, mais là aussi, c'est un peu pareil. L'injustice, moi, je pense, ce quart de finale, moi, il reste en travers de la gorge parce que c'est une injustice totale pour moi. Les arbitres.
95, c'est une injustice absolue.
En
fait, le distinguo entre 95 et 2023, c'est que 95, c'est une escroquerie et tu ne contrôles pas cette escroquerie-là.
Oui. C'est quasiment avéré.
T'as dit qu'en 2023, c'est chez toi, c'est pas truqué. Il y a eu deux erreurs d'arbitrage, Colby qui contrôle.
Oui, c'est des erreurs d'arbitrage.
Et tu peux être responsable aussi parce que tu fais des erreurs sur des ballons hauts. Oui. Je trouve que 2023 est plus frustrant parce que ça se joue plus sur le terrain, sur tes bêtises, sur un tamac qui n'est pas là. T'es frustré parce que t'as pas une tamac, parce que Dupont est pété et il est à 50% et ça se joue sur le terrain. 95, c'est une frustration parce que t'as pas les choses en main. Tu peux faire ce que tu veux sur le terrain. Ouais, tu sais que t'as perdu d'avance. Bah, c'est pour ça que 2023 est quand même plus douloureux à mon sens.
Et ouais, tu dis tu pouvais pas gagner alors que t'es quasiment en fait t'as gagné le match quasiment.
Oui, mais
tu
le voles.
Voilà. Pour moi, 95, elle est vraiment similaire à France-Allemagne 82 où tu as un sentiment d'injustice totale, absolue. C'est-à-dire que tu sais que le match, tu avais l'exploit.
Le vole.
Comme Michel Platini en 82, l'exploit il était là et on te le vole. On te le vole en te regardant comme ça, en faisant un pied de nez comme ça.
En Afrique du Sud, pour moi, l'Afrique du Sud, c'est une raison d'État. Tout simplement.
Oui, mais ça, oui, non, mais ça que va... faire en sport.
Oui, mais ça, je tiens à la prochaine fois, tu verras Pierre Berbizier, tu diras oui,
tu verras ce qu'il va te répondre. Ça dépasse le sélectionneur. Ça dépasse le cadre du sport.
Tu ne contrôles pas. 2023, tu peux contrôler ça. Tu peux le gagner quand même. Toi, Pierrot, tu vas chier parce que c'était. T'avais rien dit quand Mandela avait été en prison. Là, Sarko, tu. Super, tout.
Le traumatisme, quand même, c'est que si on veut relativiser les choses, le traumatisme de 2023, comme dit Stephen, on se la mange un peu aussi, nous, dans le jeu. Oui. Regarde, l'en avant d'Elsebet, il a la 7e minute. Il y a tout un match 14-0, à faire derrière.
C'est
pas fini. Non, tu peux pas dire que c'est fini, c'est impossible.
Attends,
on les enfonce, j'allibère le coup de pied à la fin.
Question moyenne. Question moyenne, Vincent, qui méritait le moins d'aller en prison, Mandela ou Sarkozy? Alors, allons-y, faisons-la.
Oh, Mandela. J'ai l'impression que Castan, il a pas fait grand-chose, Nelson.
Je sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi, la première.
C'est une sale gueule, d'après
moi. Je me suis retrouvé en conférence de presse, j'y suis allé parce que j'avais besoin d'y aller, bizarrement.
En 2023?
En 2023, j'étais dans un coin, je me suis caché.
Et ensuite, t'as dit à Fabien, dis-nous la vérité, Fabien. Dis-nous, parle-nous.
Non, c'était un vrai cauchemar, un traumatisme incroyable.
Non, moi aussi, moi, 2023,
j'étais. Et j'ai entendu, et j'étais là, je voyais le pauvre Antoine qui, effectivement, quand t'es joueur, t'as pas le même ressenti.
La haine,
mais je me dis,
il s'est retenu d'un assassinat l'arbitre.
Je me dis, le pauvre, quand t'es joueur, t'es pas
retenu, souvenez-vous.
Quand t'es joueur, c'est affreux, quand tu as vécu
le. C'est une horreur.
C'est une horreur.
J'ai dit, putain, on a gagné. On marque l'essai.
Mais non, les gars, c'est long derrière.
Mais souvenez-vous, la dernière pénalité.
Dernière pénalité quand même.
Le pilier, il a la main gauche au sol, il gratte le ballon sous les yeux de l'arbitre et d'Antoine Dupont.
Bien sûr. Et Antoine Dupont, il dit, je sais pas si vous avez vu, la première fois, je l'entends dire, du mal d'un arbitre.
Il a dit on n'a pas compris ou comme ça la dernière décision.
Il se sent volé quoi.
C'est la première fois qu'on le voyait comme ça.
Après ces erreurs d'arbitrage, on se réfugie beaucoup alors qu'il y a beaucoup d'erreurs quand même de
Après ça n'empêche pas que sur les ballons, tu te fais étouffer, tu prends deux essais, ça n'empêche pas. Mais si tu mets d'entrée l'essai là, t'as 20-0.
À 14 contre 15 parce que si tu laisses plus.
Juste une petite question rapide. Ce match de 2023, tu le perds plus sur les ballons ou sur les erreurs d'arbitrage, Vincent?
Erreurs d'arbitrage.
Ballon au 32-16, Laurent. Bonjour Laurent.
À 95, trop de pluie, la météo.
Salut Laurent. Tu as 45 ans, donc en 95, t'en avais combien?
15.
32 moins, donc 15.
10.
T'as vécu les deux. 15 ans. Je vais vous faire une série rapide parce que je dois rentrer sur scène avec mes acteurs. Là,
dans encore un metteur en scène avec un chou, pas possible.
Et quand tu joues à lundi à 15h, ça va être un grand succès.
Ah, j'aurais dû te prévenir, Vincent. Metteur en scène à La Rochelle.
Vincent, tu connais bien le théâtre. Vincent, tu connais le théâtre. On fait les répétitions avec juste vous dire, les gars. En fait, le traumatisme du 15 octobre 2023, il est le traumatisme majoritaire pour l'ensemble des supporters français. 95, j'étais devant ma télé, j'ai pleuré comme un gamin, j'étais ado, on a pleuré, mais c'était un truc de raison d'État, vous avez raison. 2023, il n'y a pas de question d'injustice, il n'y a pas de question d'arbitre, oui, on peut revenir sur certaines actions, etc. C'est juste que c'est du jamais vu dans l'histoire du rugby. C'est-à-dire, 10 fois on rejoue ce match, 10 fois on le gagne.
Tu gagnes 10 fois.
C'est-à-dire que sur les 20 premières minutes, rappelez-vous, les Césars sortent 2 fois de leur camp.
Laurent, il y a pire, Laurent, pour nous, et ça tombe toujours sur nous, c'est la finale 2011. Il y a pire.
Mais surtout, Laurent, sur les stats, c'est affreux, les stats de ce match-là.
Mais les stats sont affreuses. On aurait dû gagner 10 fois ce match. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que en fait, 2023, on est chez nous. On a la meilleure équipe du monde à ce moment-là. Et on perd, on sort de ce match, on dit, on peut même pas dire on s'est fait voler, faut pas, voilà, l'arbitre fait partie du jeu, etc. Mais juste à un moment donné, comment tu peux avoir moins de chatte que ce que tu as eu, en fait? C'est un truc de dingue. C'est-à-dire, le moindre ballon, le moindre rebond, il l'avait pour eux. Je sais pas, il y avait un marabout.
Ouais, mais bon, tu provoques aussi les choses.
Attends,
Laurent, à 5 mètres de la ligne, quand les Sudaf prennent la mêlée chez eux, il y a quand même un signe de
supériorité.
Et ça, ils te l'imposent, ils te disent, voilà, on est là, on va.
Ouais, mais
ça joue.
tu le gagnes 8 fois.
Ça joue, Vincent. Pachounard, c'est une chose, mais par contre, Laurent, que tu me dises, faut pas invoquer l'arbitre, il fait partie du jeu.
Non, c'est pas vrai. Il faut
c'est grossier quand même, les erreurs. Tu sais ce que c'est le problème, Vincent? C'est qu'à ce moment-là, on a interrogé des arbitres français, et nous les premiers sur RMC, qui t'ont dit, évidemment, l'arbitre ne s'est pas trompé parce qu'il ne dit jamais le contraire.
Ça a infusé les esprits.
Mais alors que ce match, c'est une arnaque arbitrale, c'est tout, c'est une réalité.
C'est comme si c'était prévu au départ,
si Dupont n'avait pas joué le France-Namibie, est-ce que les Bleus auraient gagné ce quart de finale face à l'Afrique du Sud?
Sûrement. Moi je te dis oui.
Dupont
est au sommet de ça.
Donc on a bien commis des erreurs quand même aussi stratégiquement dans cette Coupe du Monde.
On va revenir dessus après.
Ça compte.
Oui, mais ça, le mec se blesse,
Et on a oublié en 95, Pierrot, Nicolas, il a oublié de dire que si l'arbitre annule le match, le reporte, on est en finale. Si on ne peut pas, il peut pas y avoir le match reporté. Donc c'est encore plus affreux. C'est-à-dire normalement le match n'aurait pas dû se jouer.
Sur le terrain, c'est un vol caractérisé.
Sur le terrain, un détrempé n'aurait pas pu se jouer.
Pourquoi?
Mais c'est-à-dire que tout le monde a demandé d'annuler le match.
Disqualifié.
Parce que le règlement, c'était le règlement. C'est le règlement, tu pouvais pas remporter le match.
Oui, d'accord, il a raison.
Donc, on aurait été disqualifié.
Non, on aurait été qualifié. Règlement, c'est pour ça qu'il joue le match. Le terrain était complètement détrempé.
Tu peux pas le jouer normalement. Et à l'arrivée, on a encore perdu.
C'est des débats qui marchent toujours.
Hein. Une semaine après ce débat, on perdait face à l'Afrique du Sud, encore une fois, au stade de France.
Faudra les battre en 2027.
Et on va le faire.
On revient tout de suite avec l'exploit de Dorian Louvet et ses 7 marathons en 2h30. Et puis, l'histoire incroyable de Michael Aljarouge, réfugié syrien qui s'est mis au MMA et qui veut intégrer l'UFC.
RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Adrien Aygouin, Pierre Dorian.
C'est le meilleur du Super Moscato Show jusqu'à 18h pour préparer votre soirée de Noël. Vous écoutez le Moscato Show et vous avez bien raison parce qu'on passe un très bon moment.
On se régale. Voilà. De réécouter tous ces moments, moi, ça me met en joie.
C'est à quelle heure la viteuse de Vincent Moscato?
Le moment mythique de ce début de saison, c'est à 16h45 dans le journal moyen. Vincent avait voulu poser une question sur la vitesse à deux skippers qui étaient en pleine mer. Ça s'est pas passé comme prévu et on s'est beaucoup, beaucoup moqué de Vincent.
Dans une demi-heure, virer un coach S, la solution, mais tout de suite le témoignage de Dorian Louvet qui a bouclé les 7 plus grands marathons du monde dans une moyenne de moins de 2h30.
RMC,
le cri du cœur du super Moscato Show.
Dorian Louvet, le Français de 36 ans qui a bouclé son défi et son record, qu'on va vous rappeler, les 7 marathons majeurs du monde avec une moyenne de moins de 2h30. Salut Dorian.
Salut les gars.
Salut Dorian.
Ça va très bien, merci.
Tokyo, content d'être là. 2h18 et 56 secondes, Boston 2h33, Londres 2h33, Sydney 2h28, Berlin 2h28, Chicago 2h25 et donc New York 2h27. T'as couru New York le 2 novembre, c'est ça?
Ouais.
T'es dans quel état là?
Soulagé.
Non mais physiquement.
Ça va, franchement ça va, parce que quand ça termine bien en général, tu récupères toujours mieux. Ouais. Mais après j'avoue que je suis épuisé, je suis essoré, mais soulagé, et voilà, quand ça se termine bien, c'est toujours plus facile.
New York, c'est un des plus beaux marathons.
Ouais, c'est le plus légendaire. C'est aussi le plus dur, je trouve, des 7, franchement, c'est celui qui est le plus difficile en termes de dénivelé.
Je l'ai fait, je fais une heure de plus ou de moins que toi.
Ouais, c'est
une
heure de plus,
non, mais c'est extraordinaire.
C'est légendaire. Franchement, c'est New York. Bah, de toute façon, c'est les Américains étaient dans un film là-bas. Donc, franchement, c'était fou.
Il paraît, juste une petite parenthèse pour en avoir discuté avec certains participants, que c'est un peu déceptif, New York. Que t'arrives, t'es parqué dans des endroits affreux avant le départ. Que le parcours est pas génial et que c'est pas hyper bien organisé. C'est vrai ou c'est une légende?
Non, franchement, je sais. Moi, j'ai jamais entendu ça. Mais non. Alors, c'est vrai que t'es parqué longtemps au départ. Mais ça, c'est tous les grands marathons quand t'es 60 000 au départ. Mais après, tu peux pas dire, tu termines à Central Park. C'est juste, c'est lunaire.
T'as couru à fond. Ouais,
je connais, j'ai un appartement là.
T'as couru à fond, New York.
De 300 mètres carrés.
T'aurais pu gérer pour être sûr d'être en dessous des 2h30, mais t'as pas voulu. T'as essayé de chercher la performance absolue. Pourquoi?
Bah parce que non, mais c'était une allure qui me correspondait. Je savais que c'était le dernier, donc je pouvais profiter. J'avais mes proches qui étaient là, donc c'est vrai qu'à un kilomètre de l'arrivée, je me suis même arrêté faire un bisou à tout le monde parce que je savais qu'il y avait ce record du monde à l'arrivée. Et j'avais juste envie de profiter. Et moi, j'aime bien courir quand même avec un peu de panache et j'aime pas juste courir pour faire un footing. Donc j'avais quand même envie d'avoir cette sensation de vitesse et de pouvoir donner le maximum.
tu cours un peu pour ta commu, là, t'as plein de fololos.
Ouais, j'ai la commu, ils sont là. Non, mais c'est clair qu'en vrai, même la veille, on fait un run communautaire, on était 130 à New York, oui. C'est quand même un truc de ouf. Ouais. Mais franchement, juste dire, on se donne rendez-vous, on fait un petit footing tous ensemble, il y a 130 Français qui viennent. Vous c'était un truc de dingue.
Le tour de Manhattan?
Bon, on a fait le marathon. On a fait le marathon déjà la veille. Et...
Non,
on était juste le long du fleuve, là, on a fait juste 5 km histoire d'eux, franchement, c'était génial.
Y a pas une fois sur tes 7 marathons où ton corps te lâche, où tu dis, ah merde, peut-être que ça va pas le faire, une blessure, un truc musculaire.
Une sensation, ouais.
Quand j'ai fait Boston et Londres, là, 6 jours d'intervalle, là, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que j'étais vraiment fatigué, j'étais dans le dur. Mais pour autant, ça a tenu, donc je suis content. Mais là, j'ai serré les dents, j'ai bien.
T'as eu mal quelque part? T'as des douleurs précises?
Non, franchement, je crois que c'est la plus grande chance que j'ai, c'est que moi, je me blesse jamais. Genre, je me blesse jamais. Et alors, forcément, il y a des douleurs musculaires, mais j'ai eu aucun pépin physique tout au long de l'année.
Alors pourquoi t'as arrêté?
Parce qu'il y en a pas d'autres. Si t'as une idée, vas-y.
Et psychologiquement dans la tête, est-ce qu'au milieu de défi, pendant un des marathons, il y a pas un moment où tu te dis? Qu'est-ce que je fais là en fait? Pourquoi je me suis mis là-dedans? Au-delà de la douleur physique et de la course à pied pure et dure, mais dans la tête. Il y a pas un moment où tu te dis ça sert à quoi en fait?
En fait, ça m'est arrivé de me le dire, mais je sais aussi pourquoi je l'ai fait et si j'ai eu cette idée, ce projet à raconter, parce que il y a le côté record du monde et tout ça, mais c'est avant tout une aventure humaine et vraiment un projet à raconter, une aventure à raconter. Et donc en fait, dans les moments difficiles, je me dis en vrai, t'es là où tu veux être et c'est difficile, mais c'est pour ça aussi que tu le fais. Donc il y a eu des petits moments de doute, mais très vite balayé aussi par la sensation d'être soutenu par plein de gens et ça c'est quelque chose d'assez incroyable.
T'as filmé ton histoire, il y a un documentaire qui va sortir sur RMC Story.
Ouais, RMC Découverte le 13 décembre, beau documentaire qui va raconter l'aventure humaine et qui le but c'est Miles of Discovery, c'est découvrir le monde à travers les kilomètres en s'appuyant sur les plus grands marathons du monde et surtout montrer que quand on a envie et qu'on a des projets
sur tes 7 marathons.
Ouais, sur les 7 sur toute l'année.
Sans spoiler le doc évidemment, il y a des moments de galère quand même.
Ouais, il y a des moments de galère. Il y a des vomitos. Ouais, ça arrive.
C'est vrai.
Ouais, deux, trois fois, je crois.
Ah ouais, physiquement. Ouais,
même
y a des moments
à New York, je restais la pression. Je suis arrivé. J'étais bien. Grande galette.
Vincent aussi, il y a des documentaires. Dis-moi.
Tu t'entraînes toute l'année.
Ouais.
C'est quoi ton programme d'entraînement?
Là, c'est un peu particulier parce que quand t'enchaînes des marathons tous les 3 semaines ou les 6 jours, tu dois à la fois récupérer de celui d'avant, être entraîné pour pas être en phase de désentraînement. Mais sinon, cet été, je suis monté à Font-Romeu pour m'entraîner en altitude. Et ouais, c'est 10 entraînements par semaine, 10-12 entraînements par semaine et
des gros volumes.
Sur mes plus grosses semaines, je suis à 160-170.
Dorian Douvet, tu changes plan de basket, non? Qui a couru les 7 marathons majeurs avec une moyenne de moins de 2h30. Revenons sur l'enchaînement Boston-Londres. Tu cours un marathon à Londres, 7 jours après une semaine après un marathon à Boston.
Ouais, le contraire, Boston, le lundi matin.
C'est Boston après Londres?
Boston avant Londres.
Ah, oui, c'est ça. Donc tu disputes Londres une semaine après Boston.
Ah oui.
Avec en plus le déplacement, il y a un peu de décalage horaire. Londres, ça a été un supplice ou pas plus que les autres?
Ouais, si. Parce que
le temps n'est pas moins bon.
Et oui, c'est ça qui est curieux. Ouais, c'est curieux. Je peux pas vous dire. Je cours Boston le lundi matin parce que c'est un jour férié, donc j'aurais même préféré que ce soit le dimanche, mais là c'était le lundi matin. Et après, du coup, le mercredi, il faut aller à Londres pour recourir le dimanche matin.
Non, puis l'avion.
Ouais, l'avion, le jet lag, franchement, c'était super compliqué. J'ai essayé de tout mettre en face pour la récupération. Et c'est vrai que du coup, Boston, je l'ai couru en me disant, t'as quand même... En fait, tu peux pas dissocier les deux. Donc, je me suis dit, ok, tu cours Boston, mais dans 6 jours, t'as Londres. Donc, donne pas tout.
Et entre les deux, tu sais que t'as pas couru, pratiquement.
Ouais, j'ai recouru, je crois, le vendredi, petit footing, et le samedi, mais 2 fois 30 minutes. C'est tout. Ouais. Et en fait, le dimanche matin, quand je pars, j'ai mal aux jambes.
Dorian, loin de moi d'avoir des soupçons de malveillance sur toi, mais est-ce que, parce que t'as validé un record du monde, ça a été validé par le Guinness Book des records, record du monde, est-ce que pour valider un record du monde comme ça sur la course, il y a des suivis d'antidopage?
Même pas, parce que du coup, le Guinness World Record, c'est pas non plus quelque chose
officiel.
Voilà. Et je me suis posé la question, mais non, j'ai pas eu un contrôle
du tout.
Tant mieux.
Est-ce que tu peux nous dire
il est pas trop tard, tu vas pisser dans la bouteille de Pierrot là, tu vas pisser dans la bouteille de Pierrot.
J'étais en Martinique la semaine dernière, si je pisse à mon avis c'est pas
c'est du rhum que tu as pissé. Est-ce que tu peux nous dire en des termes relativement simples, sans rentrer dans les détails, quelle est la grosse différence entre courir un marathon et courir 7 marathons?
C'est la gestion de l'effort, tu peux pas, il faut réussir à courir le marathon en se disant que t'as pas donné à 100% pour pouvoir récupérer plus facilement et te remettre ça.
T'arrives à toi, jours. De toi-même, te dire je cours à 90%, ça existe ça?
Oui, ça existe puisque mon premier marathon que j'ai fait à fond à Tokyo, j'ai fait 2h18 et c'est mon record perso. Là, j'étais à bloc et tous les autres, je les ai enchaînés en 2h25, 2h27, 2h28.
Donc, ah ouais, feignasse,
quoi. Exactement, j'étais
en mode footing, quoi.
Tentant de boire un café et c'est vrai que du coup, bah, dans l'allure, t'es quand même un peu plus facile.
Et tu cours Tokyo à fond pour prendre de l'avance sur le record ou juste parce que t'avais plus de temps de récup?
Parce que j'avais plus de temps de préparation. Voilà, c'était le premier, donc c'est le seul que je pouvais faire vraiment vraiment à fond parce que derrière, bah, quand t'arrives sur 5-6 que t'en as déjà fait plusieurs dans l'année, forcément physiquement t'es pas au top.
Et aujourd'hui, t'aimerais pas descendre en dessous des 2h18?
Si, bah ça sera.
C'est le objectif ou pas?
Ouais, si un jour je refais un marathon et j'en ferai un, l'objectif ça sera de battre mon record perso, ça sera plus de réenchaîner comme ça. J'ai
fait. Tu l'as dans les.
Ouais,
dans
c'est
la
sûr.
Tête,
parce que je pense vraiment que ça m'a fait franchir un cap cette année, le fait d'enchaîner les marathons là en fin d'année et de devoir m'entraîner toute l'année. Maintenant, c'est une distance que j'ai l'impression de connaître par cœur, qui a plus de secret pour moi, et donc tu prends forcément de l'expérience. Donc avec une grosse phase d'entraînement, je pense que sur le prochain, j'essaierai d'aller chercher 2:15. Enfin, ça paraît peut-être c'est 3 minutes, mais c'est quand même beaucoup.
C'est énorme.
T'étais un grand pote de Jimmy Gressier, donc t'as vécu ses performances avec émotion. Lui, il a pour ambition peut-être plus tard de passer son marathon. Tu penses que lui, il peut tout arracher son marathon?
Ouais, bah, peu importe ce qu'il fait, il va tout arracher. C'est une machine de guerre. Et moi, je suis trop content de ce qu'il a fait au championnat du monde. D'être champion du monde de 10 000, c'est une perf qui est encore, c'est beau. Enfin, qu'on soit d'accord. Moi, j'ai un record du monde. Rien à voir avec Jimmy. Hein, c'est deux mondes différents. Lui, c'est strato. Je sais qu'il veut passer sur marathon. Et quand il va passer sur marathon, je sais qu'il va tout casser. Lui, sur son premier, il fera, je pense, 2-6, 2-5. Sur le premier.
Et de faire les JO à Los Angeles aussi, tu penses?
Lui,
le marathon. Lui, alors, posé la question, il savait pas trop parce que c'est un problème.
Il décidera plus tard.
À la base, c'était le projet. Son projet, il était bien écrit. Mais dans tout son projet, il n'y avait pas prévu d'être champion du monde du 10 000. Donc là, ça redistribuait les cartes.
Tu connais par cœur. Est-ce qu'il t'a bluffé? Est-ce que tu t'attendais à ça?
Non.
Tu le voyais pas?
J'étais chez lui à Font-Romeu, en fait, cet été, pendant moi que je préparais mes 4 marathons, et lui, il préparait le championnat du monde. Et on en parlait. Et en vrai, ce qui est incroyable, et je pense que ça, c'est digne d'un champion, c'est que je pense que s'il y en a que un qui pensait qu'il pouvait faire podium au championnat du monde, c'est lui. Vraiment. Lui, il se dit, pourquoi pas? Et quand il gagne la Diamond League juste avant, ça lui met dans une confiance. Et moi, avant, tout le monde me dit, tu penses qu'il va faire quoi, Jimmy? Franchement, il est en forme. Je pense qu'il peut réussir à faire dans les 6 premiers. Tu vois, peut-être accrocher le top 5, c'est ouf. Mais franchement, le podium, c'est mon ami, mais j'y croyais pas. Mais gagner, mais j'aurais pas mis
10 000 mètres des championnats du monde cet été, on vous le rappelle. On est avec Dorian Louvet, donc qui a couru 7 marathons, les 7 majeurs, en moins de 2h30 de moyenne. Pourquoi t'as fait ça, en fait, Dorian?
Oui. Ouais. Bah franchement non mais aujourd'hui moi mon job c'est un peu de raconter des histoires à travers la course à pied, même si moi mon mindset c'est un peu la performance et j'aime la compète, mais aujourd'hui j'aime raconter des histoires. C'est sept marathons que je voulais faire. Quand t'aimes le marathon, c'est les plus grands du monde, tu veux les faire. Et je suis pas patient et je me suis dit lequel je fais en 2025, vraiment j'hésitais. Et après je me suis dit pourquoi j'essaierais de pas tous les faire, et ça me paraissait un peu con quand je l'ai dit. Et après j'ai essayé de raconter l'histoire, et en vrai je me dis on peut raconter une aventure humaine incroyable, on peut faire passer des messages forts, pas celui de faire les 7 marathons parce que je le déconseille à tout le monde, mais de se dire que voilà, en se fixant des objectifs avec une paire de baskets, on peut tous aller chercher ses propres émotions et ses défis. Franchement c'était génial.
T'étais plus un aventurier puisque tu te files de record avec une grosse, bien sûr, des aptitudes pour la course. Mais donc, les prochains trucs que tu vas faire, puisque t'aimes raconter des histoires, ça va être quoi dans le Groenland, la chasse à l'ours, un truc, et tout un peu différent, quoi.
Si tout est possible.
Non, ce que je veux dire, c'est ce que tu recherches. Ce que tu recherches, c'est le grand frisson, c'est l'adrénaline.
Ouais,
donc là, bon, la course, c'est fini. T'as fait ce qu'il y avait de plus dur, les marathons. En plus, tu les as enchaînés. Donc là, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? De la montagne?
Je pense que je vais aller un petit peu sur trail.
ça c'est
pas facile. Non, je pense que je vais aller un petit peu sur trail pour découvrir justement des nouvelles aventures, des nouvelles émotions. Mais j'en ai pas terminé avec la course à pied. C'est pas parce que j'ai fait ces 7 marathons là que c'est forcément terminé. Faut juste se fixer un nouvel objectif, une nouvelle raison de te lever le matin pour aller t'entraîner. Et puis après,
on a du foot 3 fois.
Enfin, on verra.
Dorian, tu es un des représentants de la course à pied. Il y a un phénomène autour de la course à pied en France. Tout le monde se met à courir, ce qui est bien d'ailleurs. Le profil, quelqu'un qui a, je sais pas, entre 30 et 40 ans, pas trop sportif, qui
toi,
décide.
Quoi. Ouais, jeune divorcé.
En surpoids. Non, mais qui se dit, je pars quasiment de zéro, je veux faire un marathon. Quels sont les 2-3 premiers conseils que tu lui donnes pour s'y mettre? Pour se mettre déjà même à la course à pied. Et à l'arrivée, peut-être 2 ans plus tard,
finir avec un marathon.
Ouais, parce qu'on a tendance aujourd'hui.
Pour pas se dégoûter aussi, tu vois.
Ouais, bien sûr, on a tendance, grâce ou à cause des réseaux sociaux, de banaliser le marathon. Mmh. On veut courir, on veut tout de suite faire un marathon parce que c'est la distance mythique.
Il faut pas.
Mais bah, il y a quand même peut-être quelques étapes à franchir avant. Et si tu veux faire un marathon et que aujourd'hui tu cours pas 3 km, tu vas te dire bah, la marche elle est trop haute, donc je vais pas y aller. Donc faut se fixer, je pense, des objectifs intermédiaires. Commencer par 5 km, 10 km, et en fait, bah tu verras que t'as la même fierté à aller terminer ton premier 10 km officiel en moins d'une heure, par exemple, et de se dire ah ouais, j'ai vraiment progressé par rapport
et
à la prochaine fois.
Et on progresse vite en course à pied.
Et on progresse super vite. Franchement, on progresse très vite. Le seul risque, c'est de se blesser parce que tu veux justement trop en mettre, trop vite, trop fort. Et franchement, faut y aller progressivement. Mais sincèrement, les émotions qu'on va chercher dans le sport, là, c'est vrai que le running, parce que le running, c'est facile. Tu mets là, on prend tous une paire de baskets, on va courir tout de suite, on passe un bon ou un mauvais moment, mais en tout cas, on finit, on a tous transpiré, on est content.
C'est facile.
Et c'est pour ça, je pense.
Merci beaucoup, Dorian, d'être revenu dans le
parc hier soir. Il a vu Mbappé, il était applaudi à Mbappé.
Quand même, parce qu'il a marqué deux buts, il est obligé d'applaudir.
Toi qui es cané, c'est vive Orelsan ou vive Mbappé?
Bah non, mais à quand? C'est Orelsan le boss.
Bien sûr.
Il arrive, il n'est pas en terrain conquis, donc il faut qu'il fasse attention quand même.
J'ai applaudi Mbappé hier.
J'ai applaudi Mbappé, il a mis deux buts.
C'est ton idole, Mbappé, ou pas? Non,
non, c'est pas mon idole. Non, mais j'aime le joueur, tu peux pas. Mais on en parle en off, mais je préférais quand il était à gauche.
Merci Dorian,
il est très sympathique.
Il est sympa, c'est un homme de médias, hein. Il est sportif et il est médiatique.
On l'a vu un peu partout, mais c'est quand même chez nous que c'était le mieux. Hein.
Ouais, franchement, on est des bons intervieweurs, je trouve.
Dans un instant, alors tout de suite même, ne ratez pas l'interview de Michael Aljarouge. Son histoire est totalement unique. Il fait du MMA en France après avoir fui la Syrie. C'est parti.
RMC, le cri du cœur du super.
Alors c'est un vrai cri du cœur, comme on dit. Vincent, nous allons vous présenter un combattant dont le parcours est absolument unique et que vous allez découvrir dans un très beau film jeudi 21h sur RMC Sport 1. Bienvenue Michael Aljarouge.
Merci beaucoup.
Salut Michael.
Bonjour.
Michael.
Ça va? Très bien, et vous?
Merci d'être venu. Ça me fait
Michael,
toujours plaisir de recevoir des combattants.
MMA. Merci et beaucoup. De ton parcours personnel, les deux sont liés, évidemment. Tu as 28 ans, tu fais du MMA, tu es à 13 victoires et 3 no contests, et tu as combattu jusqu'ici.
3 défaites et 2 no contests.
3 défaites, 2 no contests, excuse-moi, au sein de l'organisation Hexagone, dans la plus petite des catégories. Hexagone, c'est une des bonnes organisations de MMA, mais qui n'est pas la meilleure. Ton rêve et d'intégrer l'UFC. Tu as 28 ans, tu arrives en fin de contrat avec Hexagone. Est-ce que tu es un tournant de ta carrière? Est-ce qu'on peut dire ça?
Exactement, oui. Là, j'ai fini mon contrat avec l'Hexagone et j'attends avec impatience le contrat de l'UFC. Malheureusement, c'est très dur, surtout en ce moment. Ils signent pas beaucoup de gens, mais... je continue à croire et je sais qu'un jour je vais intégrer cette organisation-là.
Ça dépend de quoi ? C'est une question de niveau sportif ou il y a aussi la notoriété et tout ce que tu peux amener en termes de marketing ?
Alors ça joue aussi énormément, la notoriété comme tu as dit, mais aussi la disponibilité des événements à l'UFC et aussi les combattants qui veulent signer. Je sais que je suis sur la liste des combattants que eux ils veulent signer, on sait pas. Donc
voilà. Tu es en pleine incertitude, hein, on va le dire. Il y a aucune garantie que tu signes l'UFC un
rien.
Jour. Hein.
Mais là, c'est le poids de ton manager qui fait la différence.
C'est exactement
c'est
ça.
Très important. T'as un manager qui tient la route.
Oui. Ouais.
Et c'est pour ça que tu as changé de manager d'ailleurs, non?
Pardon?
C'est pour ça que tu as changé de manager dernièrement.
C'est exactement ça, oui.
Il faut prendre des managers qui sont référencés auprès de l'UFC.
Exactement.
Il faut avoir ses propres entrées.
Exactement. Qu'ils ont déjà un pied dedans.
Qui ont d'autres combattants qui sont déjà dans l'UFC.
C'est ça. Ouais. C'est ça. Et le manager que j'ai maintenant, il.
T'inquiète pas.
Il est.
Les plus grands sont passés dans cette émission.
Michael, il y a un truc qui. Alors, c'est ce que m'ont dit les spécialistes de MMA. De la cellule combat d'RMC Sport, il y a un truc qui ne t'aide pas, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore de papier français, tu as le statut de réfugié de guerre. Il paraît que ça n'aide pas pour entrer à l'UFC. C'est pas vraiment de l'UFC dont je veux parler, c'est justement de ton statut, parce que ton histoire, elle est assez unique. Tu as fui la guerre civile en Syrie, tu vivais à Alep,
c'est ça.
Et tu es venu en France parce que tes parents... lorsque vous étiez avec ton frère âgé de 13 et 15 ans, ont décidé que vous ne pouviez pas rester dans cet enfer.
Non.
et vous êtes donc parti en France. Raconte-nous à quoi ont ressemblé les 15 premières années de ta vie. En quelques mots, si c'est possible. Hein.
Bah c'était super bien, des sorties, des activités. J'étais un enfant qui avait plein d'activités.
Combat à 2 ans et demi.
C'est ça, ouais. j'ai commencé le sport de combat à 2 ans et demi parce que j'étais un enfant qui avec plein d'énergie et ma mère fallait
te dépenser.
Me défouler.
Exact. C'était quoi comme sport de combat au début?
Kung Fu, Wushu et Sanda.
C'est tout à la Sanda là.
Et puis la guerre est arrivée et tu habitais à Alep.
C'est alors, ça.
Alep qui a été une des villes les plus sinistrées hein,
c'est ça.
Par la guerre.
Exact.
Il y a quelque chose qui est raconté dans le film que vous allez voir à partir de jeudi, c'est que à côté de chez vous, il y avait un sniper.
C'est ça,
qui
ouais.
sévissait et qui tirait sur tout et n'importe quoi.
Tout et n'importe quoi, oui. Tout ce qui passait, les chats, les humains, tout, et ouais.
Ça, c'était ton quotidien. Votre quotidien, on va dire.
Alors, il était le quotidien... J'imagine que oui, hein. vu les nombres des gens, malheureusement, qui sont passés là-bas. Oui,
Tu te souviens de tout ou t'as fait un peu abstraction, t'as effacé des choses de ton cerveau?
Je me souviens de tout, mais ça m'empêche pas de vivre, ça m'empêche pas de m'améliorer, devenir une meilleure personne qu'avant, une meilleure combattant. C'est des choses qui se sont passées ils sont dans le passé. Donc je vois pas pourquoi traîner ce sac avec moi. Déjà la vie est compliquée, donc je vois pas pourquoi traîner quelque chose de lourd avec moi. Et
est-ce que ça donne une force différente?
J'imagine que oui, parce que les problèmes que je vais rencontrer dans ma vie, je dirais que j'ai déjà affronté des problèmes et j'ai su les résoudre. Donc pourquoi pas résoudre encore des problèmes, et tout le monde va en avoir. Donc
alors voilà. Il y a une partie sur ton histoire, une partie sur ta carrière de MMA. Il y a quelque chose qu'on va raconter, que raconte ton père, c'est que donc en Syrie, la population elle subit à la fois le régime qui réprime la révolte et Daesh qui fait partie au départ donc de la révolte et puis qui à son tour réprime la population. Et lorsque vous essayez de quitter le pays, il faut aller prendre un avion.
C'est
sur
ça.
Le chemin vers l'aéroport, vous êtes arrêté.
Pas le chemin à l'aéroport, mais quand on partait en Liban. Tous les aéroports et les ambassades, consulats en Syrie, ils étaient fermés. Donc, on devait aller en Liban pour justement faire la demande de visa.
Vous êtes arrêté par un groupe de Daesh.
C'est exact.
Ils te voient et ils estiment que tu es en âge de combattre.
C'est ça. À cette période-là, les jeunes n'osaient pas de sortir parce que soit ils avaient leur service militaire, soit
ils étaient enrôlés immédiatement.
Oui, c'est ça. Tant que tu peux porter d'armes et eux, ils estiment que tu peux combattre,
ce jour-là, t'as failli être enrôlé de force.
Exact.
Et ton père a réussi à négocier contre de l'argent.
C'est ça.
De vous laisser partir.
Pour nous laisser partir, ils nous ont arrêtés. Il dit Al-Jarouj, je me lève parce qu'ils avaient toutes les cartes d'identité de tous les passagers. Et il dit Al-Jarou, je me lève avec mon père et mon petit frère. Il dit, toi, tu viens, je descends. Et le conducteur, avant de partir, il nous a bien dit, si quelqu'un descend, ne faites rien. Parce que ça va pas les empêcher de tirer sur le bus. Ouais, rafaler le bus, ça c'est déjà arrivé. Et malgré ça, mon père... a pris le risque et est descendu et il a négocié avec eux et contre l'argent et ils m'ont libéré avec une phrase qui dit si on vous rattrape encore une fois, là vous êtes tous morts. Donc
il n'y a pas de deuxième chance.
Pas de
voilà
deuxième chance, pas
l'histoire
avec
de Michael Al-Jarouj.
Sa
nationalité, tu risques de l'avoir bientôt ou tu te bats?
Je me bats, oui. Je me bats vraiment fort pour l'avoir.
Ça en est où aujourd'hui?
Nulle part, malheureusement. J'ai contacté Madame ministre de Sport, j'ai pas eu de réponse. J'ai contacté aussi le ministre de l'Intérieur, j'ai pas eu de réponse. J'ai toqué sur toutes les portes.
Est-ce que si tu faisais un autre sport que le MMA, c'est-à-dire peut-être un sport olympique, Est-ce que tu penses que ta nationalité française aurait été acquise plus facilement?
Alors sûrement, si mon sport était dans les JO, sûrement, je pense que j'aurais pu avoir même la plus boxe, de chance. Hein. J'aurais
en
pu
sport
avoir
de combat,
si tu représentes la France, oui. Si tu représentes que toi-même en MMA, c'est
oui, mais tu combats quand même avec une nationalité en face de ton nom.
J'ai toujours représenté la France depuis que je combats.
Quand tu combats, c'est FRA.
Oui, je demande tout le temps, et même quand j'ai combattu à Brave, d'ailleurs, c'est pour ça, ils ont rejeté ma demande de nationalité ma deuxième demande de nationalité, parce qu'en fait, j'ai combattu à Bahreïn et ils ont dit oui que je suis parti à Bahreïn et que ils sous-entendent que le Bahreïn c'était un pays un peu terroriste, donc ils ont pas compris.
Si vous voulez avoir toute l'histoire de Michael Aljarouche, donc c'est jeudi 21h RMC Sport 1 et l'appli RMC Sport, et à partir de vendredi sur la chaîne YouTube d'RMC Sport en gratuit et en accès libre. Donc à partir de vendredi, et une phrase qui résume bien ce film au tout début: pour faire ce sport, le MMA, il faut soit avoir une case en moins, soit une histoire de vie un peu particulière. Bon. Soit c'est la deuxième solution.
Voilà.
Merci beaucoup Michael.
Merci à vous de m'avoir invité.
Michael Aljarouche qui, on l'espère pour lui, va réaliser son rêve d'intégrer l'UFC. Journal moyen arrive.
15h45 dans quelques secondes, là, dans quelques minutes, le journal moyen première édition. On va parler physique quantique parce qu'on a peur de rien dans le Moscato Show. C'est tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Adrien Aygouin, Pierre Dorian.
Vous êtes sur RMC, c'est le Super Moscato Show et c'est l'heure du premier journal moyen sur RMC.
La première édition, l'actu, la culture, les médias. Vincent Bijouté, un présentateur des infos hier sur RMC, comme ça tu l'as testé, il a été très bon, très professionnel. Record incroyable pour Cristiano, on parle de Soussou. Vincent, c'est le premier Cristiano, premier footballeur de l'histoire, le premier
à dépasser le milliard.
Et puis on va parler physique quantique si vous êtes si on a le temps.
Ouais, c'est ça.
Vous êtes sécurité. Qui est spécialiste de physique quantique. Vous écoutez,
tu vas à l'église, tu chattes en faisant bouillir des trucs, des crampons.
C'est le 2369e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez pas entendues sont dans le journal moyen. Première édition.
Et je découvre que Vincent, Eric, Cécilia a dessiné un zizi sur ma feuille pour me déconcentrer. C'est comme ça. J'ai du Moscard pour débuter chez nos politiques, Vincent, qui sont tendus en ce moment.
Ah oui.
Je sais pas si vous avez remarqué, Eric, la situation est tendue en ce moment en politique.
Ouais.
J'ai du Moscard à gauche et à droite parce que dans les médias, ils sont tendus.
On peut dire un mot,
tout à l'heure. On débute avec à gauche Mathilde Panot, LFI, qui nous parle du futur gouvernement ce matin sur RMC avec Apolline de Malherbe. Moscard.
Mais écoutez, nous avons des convictions. Nous avons été élus avec un mandat
du peuple.
Ne
prendrait pas ce risque.
Et de ce fait, s'il y a une alliance de briques et de braques qui se ferait d'une quelconque manière pour continuer la politique macroniste.
De briques et de brocs. Oui. Alors passons à droite maintenant, Pierrot, avec la vice-présidente des Républicains qui s'appelle Florence Portelli dans les Grandes Gueules sur RMC. Elle défendait les élus locaux qui sont très engagés, qui souffrent en ce moment. Vous connaissez l'expression, on la connaît bien dans le Moscato Show, jeter le bébé avec l'eau du bain. Eh bien Florence Portelli décide de raccourcir. Elle raccourcit l'expression. Non, elle va direct, c'est efficace.
Maires, conseillers départementaux, régionaux qui en bavent, qui adorent ce qu'ils font et qui sont prêts à sacrifier une partie de leur vie pour l'intérêt général. Et aujourd'hui, on est jeté avec l'eau d'un bain assez sale.
On est jeté.
Et les gens se disent finalement.
Assez sale. Attention, c'est peut-être pas pareil.
Elle l'a reformulé.
C'est bon. Ouais, parce que
avec l'eau d'un bain assez sale.
Ça
ne vaut pas le
goth. Il n'y a pas besoin du bébé.
Ça ne vaut pas le goth. L'entraîneur de rugby.
Entraîneur
de Narbonne. Qui un jour nous a revisité l'expression l'eau du bain. La version longue. Oui, la version longue. Parce qu'il y a une version longue. C'est le goth. Jacques Delmas. Merci Jacques.
On a loupé un rendez-vous. On était absent au rendez-vous, il faut l'assumer, nous les premiers. Mais bon, il faut pas tirer un trait à tout ça. Il faut pas jeter le bébé avec l'eau du boudin.
Le bébé avec l'eau du boudin.
Du boudin. Tiens, voilà du boudin.
Et vous aurez noté il faut pas tirer un trait à tout ça. C'est horrible. C'est affreux, Biron.
Non, mais c'est l'arbonné, lui.
Je sais même pas ce que ça veut dire.
C'est l'arbonné.
Il faut pas tirer un trait à tout ça.
Faut pas tirer des traits, quoi.
Ouais,
à tout ça. Mais à tout ça. Mais
en vérité, c'est simple.
Je comprends.
Il faut pas tirer un trait à tout ça. Ça veut exactement dire. Il faut pas jeter le bébé à vélo.
Exactement, c'est souvent les mecs qui disent ça. Quand ils disent on va pas jeter le long du bébé à vélo, ils disent faut pas.
Sans transition, sport et argent. Nouveau record incroyable pour Cristiano Ronaldo. Jingle.
Le jackpot, messieurs dames, nous avons décroché le jackpot.
Information du magazine spécialisé dans la finance, Bloomberg, Vincent, à 40 ans. Il est déjà toujours joueur de foot. Déjà, ça c'est
le maire de New York.
À 40 ans, Cristiano Ronaldo est devenu officiellement le premier joueur de foot milliardaire. Formule estimée, là, aujourd'hui, à 1,4 milliard de dollars.
Ah oui, mais largement passé.
1,4 milliard de dollars. Pourquoi il a dépassé comme ça, là, sans prévenir ce milliard?
Parce qu'il les a placés chez Madoff.
Parce qu'il a signé en Arabie Saoudite il y a 2 ans, en 2023. Oui. Il joue à Al Nasser en Arabie Saoudite. Récemment, il a même prolongé son contrat de 2 saisons au même tarif que le contrat précédent, que le premier contrat. Sur 2 ans, Vincent.
Rappelle-nous déjà.
400 millions de dollars. 200 millions de dollars par an. C'est le joueur de foot le mieux payé de la planète.
Et ouais, c'est 800 millions déjà.
Et en plus, système incroyable, ils ont ajouté 15% des parts du club. Donc ça veut dire que là, ouais, il a dépassé le milliard, 1,4 milliard de dollars. Bravo Cristiano, bravo, 40 ans. Bravo. Il s'est exprimé aujourd'hui parce qu'il est en sélection avec le Portugal. Il dit qu'il a pas, il envisage pas trop d'arrêter le foot.
Si Ferendo à notre association Super Moscato Show,
oui, pourquoi pas.
On partage une
un apéro pour Moscato.
Ouais, voilà, quand même.
1,4 milliard de dollars.
T'envoies 10 patates, tu le verras pas, tu les envoies.
Si le Portugal se qualifie, ce qui est fort probable, il jouera la Coupe du Monde de foot. Voilà, à 40, à plus de 40 ans. Bravo Cristiano, 1,4 milliards de dollars. Là, à côté, Beckham et son qui c'est 400 millions, c'est rien.
Oh, quel
pipe, con. Et il y a un mystère autour de, d'ailleurs autour de Mathieu Flamini. Vous savez, ce joueur de foot qui a joué à Arsenal, oui, français.
Mais grand businessman.
Grand businessman. Et ils n'ont pas réussi à évaluer sa fortune, mais il pourrait faire du milliard. Je ne sais plus dans quel domaine.
Il y a quand même une anomalie. Du pétrole.
Le mec voilà. Formé à l'OM. Ouais. Il est très bon footballeur. Ouais. Et excellent businessman.
Il y a un souci. Il n'est pas marseillais.
C'est impossible. Je vais te dire, c'est du cinéma. C'est pas possible. Ou alors il trafique des trucs.
Le petit Flamini, il est 100% marseillais en plus.
Ouais, 100% marseillais.
Il a fait de la taxe carbone ou un truc comme ça.
Non, non, c'est nickel.
Non, non, il a eu le nez, et peut-être la chance, parce qu'on lui a proposé d'investir dans une start-up.
Et après, il s'est pris au jeu, il est devenu businessman.
Bah, c'est pas pareil.
Sans transition, c'est l'instant bizutage. Les infos sur RMC, hier 15h, Vincent aime bizuter les nouveaux présentateurs des journaux sur RMC. Hier à 15h, c'était Grégoire Morelli, qui n'est pas un habitué du Moscato Show, qui présentait le Flash. Vincent a décidé, écoutez ça gratuitement, de le déstabiliser. Écoutez bien, Grégoire est un très grand professionnel. Il est 15h.
Michael Jordan ou LeBron James, qui à 18h a une annonce à vous faire.
Oh, c'est dingue.
C'est non, dans un instant sur RMC.
On va exposer. Fait 3 millions. Là, Pierrot, je suis fort.
RMC, il est 15h.
Ça, c'est du talent, Pierrot.
C'est l'heure des infos avec Grégoire Morelli. Bonjour Grégoire.
Bonjour Pierre, bonjour à toutes et à tous.
Adieu Morelli.
La crise politique gagne le camp présidentiel, ce n'est pas drôle. Édouard Philippe, membre voilà, de la coalition, demande au président de partir.
Très bon réflexe. Voilà.
Il présente une info sérieuse et tu le fais rire.
Pourquoi tu dis bonjour comme ça?
Adieu, bonjour, ouais. Ça m'est venu comme ça, c'était pas pour déstabiliser.
Il est poli. Hein.
Allez, sans transition.
Pour déstabiliser, c'était... Bah, alors, ça peut déstabiliser. Mais
le Moscato Show, a-t-il eu le prix Nobel de physique? Jingle.
Oui. Houston, we have a problem.
Do you think
Houston, we have a problem.
Do you think
Alors hier, on aime bien parler de ces sujets nous dans Moscato Show. Le comité Nobel a remis le prix Nobel de physique à 3 spécialistes de la mécanique quantique. Le britannique John Clark, l'américain John Martinez et Cocorico. Il y a un français, Vincent, Michel Dévoré. Michel Dévoré. Ils ont été récompensés pour une découverte.
Michael.
Je vous lis l'intitulé de la découverte, Vincent, accroche-toi. La découverte de l'effet tunnel quantique macroscopique et de la quantification de l'énergie dans un circuit électrique. Ils ont réalisé une série d'expériences pour démontrer que les propriétés étranges du monde antique peuvent être rendues concrètes dans un système assez grand pour être tenues dans la main. C'est l'agence France Presse qui nous rapporte ça et on remercie l'AFP.
J'ai rien compris.
On a rien compris.
Fais-moi un exemple.
Compris.
J'ai quelque chose, t'as rien compris.
Moi, je suis pas intelligent.
Ah ouais,
Alors, un truc qui tient à la main et qui grandit, c'est la quantique.
Si tu te jettes contre un mur, tu vas rebondir normalement.
Oui.
Et ben, sache qu'il y a une probabilité non nulle en science que tu traverses le mur. Pourquoi? Parce qu'au niveau quantique, c'est-à-dire tout petit,
une
particule peut traverser la matière.
Un nano.
Et ben, eux, ils ont essayé de voir jusqu'à quelle taille on peut traverser de la matière, justement. ils ont réussi à le faire à un niveau macroscopique, donc à une taille, la taille d'une paume de la main. Ce qui veut dire que, du coup, tu peux réessayer de te jeter contre le mur et peut-être tu vas traverser.
Alors, moi, je te fais Adrien. Adrien!
Attention là, tu le vois, le mec là?
Bravo, Pierrot.
Pierrot, jette-toi contre le mur là.
Ouais, quel mur?
Mais maintenant que tu sais que t'as une chance de traverser, est-ce que t'as pas envie de le faire?
Tu sais quoi, c'était le film Passe-Partout, tu te rappelles pas de ça?
Exactement.
Il traversait les murs. Voilà, tu vois, ça devenait une réalité. Moi, ce que j'aimerais qu'il trouve, lui, qu'on puisse se transporter, maintenant, à 5 milliards de kilomètres, on trouve une planète avec des dinosaures et tout ça.
Qu'est-ce que tu ferais une fois que tu
vois, ou alors pouvoir être invisible, t'arrives au Cap d'Agde,
je vous le dis, aujourd'hui, à 15h55, je suis prêt à rendre la victoire en Ligue des Champions du PSG contre la découverte d'une vie extraterrestre.
Non,
tu n'as pas vu qu'ils ont découvert. Ils ont découvert une planète qui pourrait être habitée. Là, il n'y a pas longtemps. Là.
Ah non, mais tu dis ça pour rendre la victoire des champions.
Ils ont trouvé.
Non, mais c'est prouvé. Sur la Lune, il y a du monde, Pierrot. Je te jure, ramenez-la, il y a du monde.
Ils auraient même, à la surprise générale, trouvé une vie intelligente sur Marseille.
Non, c'est sûr.
Moi, j'y ai cru.
Demande à Eric, on ne sait jamais.
Eric.
La seule présence.
Alors dans trois quarts d'heure maintenant, le journal moyen deuxième édition recèle une pépite.
À 16h45, le grand moment mythique où Vincent, ce jour-là, a interviewé deux skippers en pleine mer. Il leur a parlé de vitesse et non pas de vitesse. Grand fou rire à venir.
Avant ça, on va parler des coachs qui se font virer en début de saison. Oui. Et puis débat sur le PSG. Peut-il rêver d'une dynastie, plusieurs Ligues des Champions d'affilée? C'est au programme de cette deuxième heure. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 18h.
Le meilleur du Super Moscato Show.